Bonjour. Les saints de la semaine nous amènent du lundi 7 juin au dimanche 13 juin inclus. Lundi 7 juin, Saint Gilbert, qui était religieux prémontré et qui est mort en 1152. Il avait pris part à la deuxième croisade entre 1147 et 1149. À son retour, il se fait religieux prémontré à Neuffontaine dans l'Allier en fondant lui-même un monastère. Il en construisit un deuxième à Aubeterre pour sa femme sainte Péronelle et sa fille la bienheureuse Poncy. Sainte Péronelle en fut la première abbesse et la bienheureuse Poncy lui succéda. Gilbert, chevalier, appartenait à la haute noblesse d'Auvergne. Sur les conseils d'Ornifier, abbé prémontré de Dillo, il s'engagea dans la deuxième croisade, prêchée par saint Bernard à Vézelay et conduite par le roi de France, Louis VII. La croisade se transforma en désastre militaire. Rescapé de cette périlleuse entreprise, Gilbert, résolu de concert avec son épouse Pétronille et sa fille Poncia, de se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Il donna une partie de son immense fortune aux pauvres et construisit un monastère de Monial dans lequel entrèrent sa femme et sa fille. Après avoir lui-même pris l'habit prémontré à Dillo, Gilbert construisit l'abbaye de Neuffontaine et en devint tout naturellement le premier abbé en 1150. Fidèle au charisme de saint Norbert, il construisit un hôpital qui devint rapidement célèbre par les miracles que Gilbert y accomplissait. Pénitent et charitable, il attira une foule de malades et de pécheurs, désireux de soulager leurs maux physiques et spirituels. On lui amenait de tous côtés des enfants gravement malades. Il leur imposait les mains et les rendait guéris à leurs parents. Épuisé par la pénitence et le labeur, il mourut le 5 juin 1152. Selon ses vœux, on l'enterra dans le cimetière des pauvres de l'abbaye. Comme saint Gilbert bénéficiait d'une grande dévotion populaire et à la suite de nombreux miracles, Jean Lepage, procureur de l'ordre, encouragea la recherche des restes mortels du fondateur. Les ossements furent retrouvés le 26 octobre 1645. La fête de Saint-Gilbert rappelle la date de cette translation. En 1791, pendant le tumulte de la Révolution française, les reliques furent transférées dans l'église Saint-Didier pour les mettre à l'abri. On ne les a jamais retrouvées. Le pape Benoît XIII reconnut son culte le 22 janvier 1728. Il est nommé Gilbert de Neuffont par Jean-Claude Souliac qui écrit « Brillant homme du Moyen-Âge, il fut appelé à la cour de France sous Louis VI le Gros, puis Louis VII le Jeune, avec qui il fit la deuxième croisade. À l'issue de celle-ci, il décida de vendre ses biens et de se consacrer à Dieu et aux soins des lépreux. Dans ce but, il fonda en 1151 l'abbaye de Neuffont. Donc en Auvergne, en l'an 1152, saint Gilbert, abbé de l'ordre des Prémontrés, vécut d'abord en ermite, puis donc construisit cet hôpital à Neuffontaine. Ainsi qu'un monastère. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Gilbert. Mardi 8 juin, Saint Médard de Noyon, qui fut évêque et qui mourut en 560. Disciple de Saint Rémy, il devint évêque de Vermand, près de Saint-Quentin. Son siège épiscopal ayant été détruit par les invasions barbares, il le transféra à Noyon. En 531, il accueille la reine sainte Radegonde qu'il consacre à Dieu. Il évangélisera donc la Flandre. Tous les traits qu'on rapporte à son sujet sont des actes de bonté. Il donnait de larges aumônes à tous les indigents, y compris les paresseux. Il ne se décida jamais à punir les chapardeurs qui venaient voler le miel de ses ruches, les œufs de ses poules et les fruits de son verger. En France, plus de 33 localités se rangent sous sa protection. Saint Médard est né vers 456 à Salancy, en Vermandois, d'une famille franque de Picardie. Il étudie donc à Vermand et à Tournai. Remarqué par Alomer, l'évêque de Vermand, ce dernier l'élève au sacerdoce en 489. Médard devint évêque de Noyon en 530 et c'est dans cette ville qu'il accueille la reine sainte Radegonde et la consacre à Dieu dans des vœux perpétuels. Saint Médard manifeste une grande compassion pour les plus démunis dès sa plus tendre enfance. On raconte qu'il donna un jour ses habits neufs à un mendiant aveugle, presque nu, et que lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait fait de ses habits, il répondit qu'il avait été touché par la misère de ce pauvre homme et n'avait pu s'empêcher de lui donner ses habits. La contraction du nom de Saint Médard en Saint-Marc trouve son origine dans un procès verbal de la visite de l'église que fit en 1744 Monseigneur François de Madeau, évêque de Châlons. Quand la cité de Saint-Quentin fut ruinée, il transféra son siège donc dans la ville fortifiée de Noyon, d'où il mit tout son soin à détourner le peuple des superstitions païennes pour le tourner vers la doctrine du Christ. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénommeraient Médard. Saint Médard est le patron des agriculteurs et des brasseurs. Et il y a un dicton pour ce jour de la Saint Médard qui est très connu, qui dit ceci: s'il pleut pour la Saint Médard, il pleut 40 jours plus tard, sauf si Saint Barnabé lui coupe l'herbe sous les pieds. Mercredi 9 juin. Bienheureuse Diane d'Andalo, qui était dominicaine à Bologne et qui mourut en 1236. Après une vie futile et mondaine, elle décida d'entrer, malgré sa famille, chez les dominicaines de Bologne. Elle devint alors si proche du Christ que sa sainteté attirait à elle de nombreux chrétiens et chrétiennes avides de vie spirituelle. Sa rencontre avec Saint Dominique conduisit Diane, de la noble lignée d'Andalo, à entrer, malgré la violente opposition de sa famille, au monastère des Dominicaines de Bologne qu'elle avait contribué à édifier. Son amitié avec le bienheureux Jourdain de Saxe, premier successeur de Saint Dominique à la tête de l'ordre, nous vaut une magnifique correspondance spirituelle. Elle mourut donc en 1236, entourée de la vénération de ses sœurs, dont elle fut la première prieure. Donc à Bologne, En Émilie, en l'an 1236, la bienheureuse Diane d'Andalot, vierge, dut surmonter tous les empêchements que mettait sa famille avant de se consacrer entre les mains même de Saint-Dominique. Sa volonté de vivre dans le cloître et d'entrer au monastère de Sainte-Agnès, qu'elle avait elle-même fondé. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Diane. Jeudi 10 juin. Saint Landry, qui fut évêque de Paris et fondateur de l'Hôtel Dieu et qui mourut en 656. Avant son élection épiscopale, il fut peut-être fonctionnaire à la chancellerie du roi Clovis II vers 640. Selon la tradition, il vendit ses meubles et même des vases sacrés en surnombre pour secourir les pauvres lors d'une famine. Les archives nationales de France conservent sa signature originale au bas de l'acte de confirmation royale d'un privilège qu'il avait accordé aux moines de Cluny. Son tombeau était un lieu de pèlerinage à Saint-Germain. Donc vers 651, il vendit donc la vaisselle et les vases sacrés pour nourrir son peuple. C'est lui qui aurait fondé l'Hôtel Dieu et amené les bénédictins à Saint-Denis. Une statue de Saint Landry se trouve en façade à droite de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. La main gauche tient un livre fermé, la main droite montre son cœur. Il construisit donc un hospice près de la cathédrale. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Landry. Il existe un dicton. À la Saint-Landry, s'il tonne, restera vide la tonne. Vendredi 11 juin, Saint-Barnabé. Disciple et compagnon de saint Paul apôtre au 1er siècle. Joseph, que les apôtres avaient surnommé Barnabé, ce qui veut dire l'homme du réconfort, était un lévite originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Barnabé nous est connu par le livre des Actes des Apôtres. Juif, originaire de Chypre, il est un chrétien des toutes premières communautés de l'âge apostolique. Il accepte de mettre tous ses biens à la disposition de l'Église et surtout, discernant le charisme de Paul, il a l'audace d'introduire cet ancien persécuteur de chrétiens auprès des apôtres. Envoyé par l'église de Jérusalem à Antioche de Syrie, il découvre que les païens accueillent avec joie la bonne nouvelle de Jésus. Associant Paul à cette annonce de l'évangile, on peut dire que Barnabé a favorisé sa vocation missionnaire. Il participera avec lui à son premier voyage à Chypre et en Asie mineure et témoignera avec lui à Jérusalem devant tous les responsables de l'Église des merveilles que Dieu accomplit chez les païens. Ce témoignage sera déterminant pour que l'Église accepte d'accueillir en son sein des païens sans leur imposer les obligations du judaïsme. L'un et l'autre devant avoir leur caractère, Barnabé se sépare de Paul après un différend au sujet d'un certain Jean-Marc, probablement le futur auteur de l'évangile de Marc. Barnabé retourne alors à Chypre, où la tradition le fait mourir martyr. Bien que n'ayant pas fait partie des 12, Barnabé, comme Paul, est honoré avec le titre d'apôtre. Sa vie montre que sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, l'Église est missionnaire et catholique, universelle, dès ses origines. Cet homme de bien, rempli de l'Esprit-Saint et de foi, comptait parmi les premiers fidèles de Jérusalem. Il annonça l'Évangile à Antioche, introduisit dans le groupe des frères Paul de Tarse à peine converti et l'accompagna dans son premier voyage pour évangéliser l'Asie mineure. Il intervint au concile de Jérusalem et de retour à Chypre, sa patrie, il y diffusa l'Évangile. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénommeraient Barnabé. Saint Barnabé est le patron des tisserands et bien sûr, il existe un dicton à la Saint Barnabé qui dit ceci: s'il pleut à la Saint Barnabé, il y a de l'avoine partout où l'on a semé. C'est un dicton du Morbihan. Et bien sûr, celui que nous disions quelques jours avant, s'il pleut à la Saint-Médard et que la Saint-Barnabé ne lui coupe l'herbe sous les pieds, il pleut 40 jours plus tard. Samedi 12 juin. Bienheureux Guy Vignotelli, Guy de Cortone, qui était frère mineur et qui mourut en 1245. Guy Vignotelli ou Pagnotelli était un seigneur de condition très modeste, mais très hospitalier. Les Fioretti de Saint-François racontent que le Poverello et ses compagnons furent reçus chez lui, leur lavant les pieds et leur offrant un excellent repas. Plusieurs jours plus tard, il vit saint François prier, et c'est alors qu'il voulut devenir son disciple et vivre davantage encore la pauvreté. Devenu franciscain en 1211, il se retira dans une grotte près de Cortone et prêcha la pénitence aux populations voisines. À Cortone, donc en Toscane, vers 1245, le bienheureux Guy, prêtre, disciple de saint François, mena une vie de jeûne, de pauvreté et d'humilité. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Guy. Dimanche 13 juin. Saint Antoine de Padoue, qui était frère mineur, docteur de l'Église, et qui mourut en 1231. Né à Lisbonne, ce contemporain de Saint François d'Assise s'appelait en réalité Fernando. De famille noble, aux traditions militaires, il entra tout jeune chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin à Coimbra, où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand les restes des premiers martyrs franciscains furent ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez les frères mineurs et prit le nom d'Antoine. Il désirait lui aussi aller au Maroc, afin d'y mourir martyr. Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe. En 1221, il est à Assise, au chapitre de l'ordre, et ses frères découvrent alors ses talents de prédicateur et de théologien. Ayant remplacé au pied levé un prédicateur empêché, il étonne ses frères qui désormais l'envoient prêcher plutôt que de balayer. Avec la permission de saint François, il enseigne à Bologne, Toulouse, Montpellier et Limoges. À Brive-la-Gaillarde, on conserve même le souvenir des grottes où il se retira quelque temps dans la prière solitaire. C'est aussi dans cette ville qu'il retrouva miraculeusement un manuscrit dérobé et gagnant du même coup sa spécialité posthume pour lui faire retrouver les objets perdus. En 1229, il est élu provincial de l'Italie du Nord. La fin de sa vie est dominée par la prédication où il excelle. Il se trouve à Padoue pour prêcher le carême en 1231. C'est là qu'il meurt d'épuisement à 36 ans, dans cette ville qui le vénère et qui lui donne son deuxième nom, Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine est docteur de l'Église, mais la piété populaire préfère en lui l'intercesseur efficace. Il a été nommé saint patron du Portugal en 1934 par le pape Pie XI. Les franciscains s'installent aussi à Limoges, très modestement. Saint Antoine de Padoue vient et réside quelque temps à Limoges. Il prêche en Limousin et va fonder le couvent des frères mineurs à Brive. Antoine dit de Padoue, natif du Portugal, fut un très grand prédicateur franciscain, canonisé en 1232, mais déclaré docteur de l'Église seulement en 1946. Son culte, qui se développe largement à partir du XVIe siècle, se répand plus tardivement dans le Poitou à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion notamment des prédicateurs capucins. La célébration solennelle à Saint-Porchaire de Poitiers en 1893 en est une date clé. Il est généralement représenté tenant un livre sur lequel repose l'enfant Jésus. Vêtu de la bure, les reins ceints d'une corde, de là le nom des cordeliers, autrefois donné aux franciscains. Il est couvert d'un manteau brun à capuchon. Lors d'une audience papale, voilà ce que dira Benoît XVI, la centralité de l'amour divin qui s'ouvre à la sphère affective et à la volonté cordiale, qui est aussi source d'une connaissance spirituelle qui dépasse toutes les connaissances. Le docteur évangélique, a ajouté Benoît XVI, connaissait bien les défauts de la nature humaine. Il exhortait sans cesse à combattre l'inclination à l'avidité, à l'orgueil et à l'impureté. Au début du XIIIe siècle, dans un contexte de renaissance des villes et du commerce, le nombre des personnes insensibles aux pauvres s'accroissait. Ainsi, invitait-il les fidèles à rechercher l'amitié des pauvres et la véritable richesse, celle du cœur. Mais cet enseignement est tout aussi valable aujourd'hui face à la crise économique, aux inégalités qui appauvrissent tant de personnes et accroissent la pauvreté. Puis le pape a souligné un autre aspect saillant de la théologie franciscaine, le christocentrisme, qui invite à réfléchir au mystère de l'humanité du Seigneur, principalement la nativité et la crucifixion. La vue du crucifié inspirait à Antoine une immense gratitude envers Dieu, mais aussi de l'estime pour la dignité de la personne humaine grâce à laquelle, croyant comme incroyant, pouvait trouver un sens enrichissant à sa vie. Le Saint-Père a rappelé l'importance du crucifix pour notre culture et pour l'humanisme, déroulant et découlant de la foi chrétienne. C'est parce que Dieu nous considère importants que nous devons être dignes des souffrances du Christ. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Antoine. À la semaine prochaine !